À une extrémité de ma propriété se trouve une barrière qui était déjà en place quand nous avons acheté le terrain. Et à l'autre bout de la propriété, il y a un piquet. Ces balises et la petite route qui passe devant chez nous délimitent ce qui nous appartient. Notre quartier est tranquille et il n'est pas concevable que, par une nuit bien noire, un voisin vienne déplacer ses marquages. Pourtant, il y a des situations où une telle fourberie est envisageable. Je continue de lire dans le chapitre 22 des Proverbes avec la quatrième maxime de la collection des 30 Proverbes qui constitue le premier recueil des maximes des sages. Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Proverbe 22, verset 28. Quand l'Éternel a donné le pays de Canaan aux Hébreux, ceux-ci doivent se le partager. Et c'est un tirage au sort qui détermine la portion de territoire attribuée à chacune des 12 tribus. Les Lévites n'ont rien reçu parce qu'ils sont éparpillés dans tout le pays. Ensuite, chaque clan de chaque tribu reçoit une propriété en héritage qui est balisée par des amas de cailloux. Or, dans l'ensemble des Écritures, 6 passages interdisent formellement le déplacement de ces bornes. En effet, un homme sans scrupule aurait pu profiter de la faiblesse de son voisin malade ou vieux. Proverbe 22, verset 22. Et qui n'a pas de fils pour agrandir son terrain en déplaçant ses bornes. Ce qui est une façon de voler son prochain. Je lis l'un de ces passages. Vous ne déplacerez pas les bornes qui marquent les limites de la propriété de vos voisins qui ont été fixées par les premiers arrivés. Deutéronome 19, verset 14. Comparez Deutéronome 27, verset 17 et Job 24, verset 2, Proverbe 22, verset 28, 23, verset 10 et Osée, chapitre 5, verset 10. Si on considère ces limites, ces balises, au sens figuré, on peut dire que le cadre de notre société, qui était jadis judéo-chrétien, n'a cessé au fil des années d'être déplacé au point où, aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus aucune balise. Dieu a été remplacé par l'homme qui, dorénavant, règne suprême. Tout est acceptable parce que la morale, la science et la théologie commencent et finissent avec l'homme. Mais cette situation a créé des problèmes quasi insolubles et les solutions proposées sont toujours les mêmes. Elles sont d'ordre sociologique, psychologique ou économique. Mais c'est encore plus la même chose qui a déjà été essayée et qui a échoué. En fait, notre problème est d'ordre moral et spirituel et il nous faut revenir aux valeurs judéo-chrétiennes des Écritures pour sortir de l'impasse. Je finis de lire le chapitre 22 avec la cinquième maxime. Connaissez-vous un homme habile? Dans ce qu'il fait, il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Proverbe 22, verset 29. Les textes sacrés nous donnent plusieurs exemples d'hommes qui, à cause de leurs dons et talents, ont pu entrer au service d'un monarque. C'est ainsi que Joseph, fils de Jacob, devient grand vizir d'Égypte, dans Genèse 41, verset 43. David, adolescent, joue de la lyre pour Saül, premier roi d'Israël, 1 Samuel, chapitre 16, les versets 18 à 23. Hiram, 1 roi 7, les versets 13 et 14, un artisan hors pair de la ville de Tyr, sur la bande de Gaza, dirige une partie de la construction du temple de Salomon. Et le prophète Daniel est l'un des conseillers de plusieurs rois babyloniens et perses. Daniel chapitre 2, les versets 46 à 49. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas tant la quantité de travail fourni, mais la fidélité à la tâche qui m'a été confiée. C'est tout aussi vrai pour la maman qui change les couches à longueur de journée, que pour le papa qui va tous les jours à l'usine, dans les champs ou au bureau, qui met du cœur à l'ouvrage et devient habile dans sa branche professionnelle, sera reconnu comme tel et élevé à un poste plus important. Proverbe 22, verset 11. À ceux qui ont été intègres dans leur vie et qui obéissent au commandement du Seigneur d'un cœur pur. Romains 12, les versets 9 à 11. Lors du jugement, Jésus leur dira, « Très bien, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 21. Nous arrivons au chapitre 23 qui continue avec la sixième maxime des sages. Je commence à lire. Si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu es un glouton. Ne te laisse pas tenter par ces bons plats. C'est une nourriture trompeuse. Proverbe 23, versets 1 à 3. Quand tu es avec du beau monde, contrôle-toi. Sois humble, tempéré et modéré. Le sage ne se laisse pas prendre à l'hospitalité condescendance d'un personnage important, car elle est certainement intéressée. Je continue le texte avec la septième maxime. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que, déjà, elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Proverbe 23, versets 4 et 5. Il n'y a aucun mal à bien gagner sa vie par son travail, mais il ne faut pas que cette occupation soit ma raison d'être. Aux yeux des sages, amasser des richesses est un jeu qui n'en vaut pas la chandelle parce qu'elles sont très incertaines. Proverbe 27, verset 24. C'est aussi l'avis de Jésus qui, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, les versets 19 et 20, a conclu son discours en disant « Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Matthieu 6, verset 21. L'argent est en tête du hit-parade des idoles de notre monde moderne matérialiste. En anglais, on dit « un tel vaut tant », ce qui revient à égaler la valeur d'une personne avec son compte en banque. Comme n'importe quel vice, l'argent peut se retourner contre moi. Alors, il me poursuit jour et nuit. Il me donne du souci et je n'en dors plus. Il absorbe toujours davantage de temps et d'énergie. Finit par éclipser tout le reste, et je deviens son esclave, lui étant entièrement soumis. C'est un peu comme le chapeau proverbial qui met d'abord sa tête dans la tente, puis un pied, et d'un seul coup, il n'y a de place que pour lui. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon écrit « Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant, son travail n'a pas de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est une vaine manière de vivre et un souci malsain. J'ai vu sous le soleil une calamité affligeante. Il arrive que les richesses conservées par un homme viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires. Et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. » Ecclésiaste 4, verset 8, 5, verset 12 et 13. Je continue le texte avec la huitième maxime. Ne te laisse pas inviter par l'œil malfaisant, et ne convoite pas ses bons plats, car, au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre, et c'est en pure perte que tu auras tenu des propos aimables. Proverbe 23, versets 6 et 8. Comparé avec Psaume 28, verset 3. Cet œil malfaisant est l'opposé de l'homme généreux du proverbe du chapitre précédent qui dit « L'œil bienfaisant sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. » Proverbe 22, verset 9. L'œil malfaisant appartient à un affreux personnage radin, envieux, méchant, et qui ne supporte pas le bonheur d'autrui. C'est en serrant les dents qu'il organise ce travesti de fête pour paraître généreux et parce qu'il manigance quelques mauvaises actions. Il veut faire parler son hôte afin d'utiliser ses propos pour son propre bénéfice et peut-être même contre lui. Mais une fois que ce dernier se rend compte du manège et à qui il a affaire, les mets ne passent plus et il a envie de renvoyer ceux qu'il a déjà avalés. Si je suis invité à dîner par quelqu'un que je connais mal, et que pour une raison ou pour une autre, je ne me sente pas la liberté de refuser, je dois rester sur mes gardes et agir comme l'hôte qui, à la table d'un roi, se contrôle en mettant figurativement un couteau à sa gorge. Proverbe 23, les versets 1 à 3. Je continue le texte avec la 9e maxime. Ne parle pas à un insensé, il mépriserait le bon sens de tes paroles. Proverbe 23, verset 9, comparé Proverbe 9, verset 8. Il s'agit d'une brute épaisse qui est tellement bornée que c'est pure perte de temps et un exercice de frustration que d'essayer de le raisonner. Je continue avec la 10e maxime. Ne déplace pas les anciennes bornes et n'empiète pas sur les champs des orphelins, car ils ont un puissant protecteur qui défendrait leur cause contre toi. Proverbe 23, les versets 10 et 11. Cette escroquerie a déjà été mentionnée au chapitre précédent, Proverbe 22, verset 28. Voler une partie de la propriété du voisin en déplaçant ses bornes est déjà un acte crapuleux. Mais agir ainsi envers des orphelins est odieux, et un acte aussi vil sera puni. Le mot traduit par « protecteur » signifie « vengeur » ou « rédempteur ». Hébreu Goël. Dans l'Ancien Testament, cet homme est le parent qui détient le droit et la responsabilité de venger le sang d'un innocent. Assassiné, dans Nombre 35, verset 19, de racheter la propriété d'un défunt, Ruth 4:4, et également de protéger les intérêts de sa famille. Je continue. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à la connaissance. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Proverbe 23, versets 12 et 14. Nous avons déjà vu plusieurs proverbes qui parlent de la discipline de l'enfant. Proverbe 13, verset 24, 22, verset 15, 29, verset 15 et 17. Corriger ne veut pas dire brutaliser. Les parents frustrés qui font de leur gosse leur souffre-douleur en leur administrant une raclée pour passer leur nerf ou parce qu'il est pénible sont odieux. Aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants ». Mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Les coups ont pour but d'instruire et de faire pénétrer la loi morale de Dieu dans l'enfant. Éduquer et corriger dans un climat bienveillant. Il apprend la crainte respectueuse de l'Éternel qui mène à la sagesse et à la vie. Proverbe 19, verset 23. Je continue avec la 12e maxime. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture, tout mon être exultera. Proverbe 23, les versets 15 et 16. Plusieurs proverbes soulignent qu'un fils sage et obéissant fait la joie des parents. Nous en avons déjà vu un certain nombre et d'autres vont suivre. Proverbe 10, verset 1er, 15, verset 20, 23, verset 24, 27, verset 11 et le 29, verset 3. Je continue avec la 13e maxime. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, révère l'Éternel, car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. Proverbe 23, versets 17 et 18, comparé avec Proverbe 3, versets 31, 24, versets 1er et 19, Psaume 31, versets 1er et Proverbe 24, versets 14. On a déjà vu le proverbe « Révérer l'Éternel mène à la vie » et « Comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur ». Proverbe 19, verset 23. Et dans le prochain chapitre, un autre dit, « Ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir, et la vie des méchants s'éteindra. » Proverbe 24, verset 20. Je continue avec la 14e maxime. « Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Dirige ton cœur dans le droit chemin. Ne t'associe pas avec des ivrognes, ni avec ceux qui aiment la bonne chère, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. » Proverbe 23, les versets 19 à 21. Tout le monde sait que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes morses. L'avertissement du sage est surtout pour les jeunes. Quelqu'un de sensé marche droit. Il n'est ni ivrogne, ni glouton. Proverbe 20, versets 21, 23 et verset 2. Par contre, les insensés filent du mauvais coton. Ils ont pour Dieu leur ventre et engourdissent par des excès de table. Proverbe 23, versets 29 à 35. Ils sombrent dans une paresse stuporeuse, chronique, qui les rend incapables de faire face à leurs dépenses extravagantes. Le paresseux est frère du mendiant. Je continue avec la 15e maxime. Écoute ton père qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Proverbe 23, verset 22. Les proverbes et d'autres passages des Écritures, à commencer par le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 12, exhortent les jeunes à obéir, être soumis et respecter leurs parents, parce que, dès la plus tendre enfance, et surtout au moment de l'adolescence, ils ont la fâcheuse tendance de ne vouloir en faire qu'à leur tête. Dans le Lévitique, un commandement de la loi dit « Tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard. C'est ainsi que tu révéreras ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Lévitique 19, verset 32. Dans une famille normale, même un jeune qui poursuit la sagesse n'a pas l'expérience de la vie de son père ou de sa mère. Ça va de soi. Alors, s'il a la moindre jugeote dans sa petite tête de linotte, il n'hésite pas à prendre conseil auprès de ses vieux parents parce qu'ils peuvent lui donner des instructions qui relèvent du bon sens et du savoir-faire qui l'aideront à bien mener sa barque ici-bas. Je continue avec la 16e maxime. Acquiers la vérité et ne la revends pas. Pareil pour la sagesse, l'instruction et le discernement. Proverbe 23, verset 23, comparé avec Proverbe 4, verset 5. Dans le livre qui porte son nom, Job dit, « L'Éternel dit à l'homme, la crainte respectueuse du Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. » Job 28, verset 28. Depuis toujours, les grandes questions de la vie, « Pourquoi je suis sur terre? D'où je viens ?» Qu'y a-t-il après la mort et que m'arrivera-t-il ? Turlupinent les philosophes. La bonne réponse à ces interrogatoires a une valeur inestimable et la connaître mérite tous les sacrifices et toutes les dépenses. Pourtant, elle est gratuite. Il suffit de la désirer et de la demander au Seigneur. Le prophète Ésaïe écrit « Vous tous qui avez soif, venez. » Voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Ésaïe 55, verset 1er. L'eau, le vin et le lait sont au corps ce que la vérité, la sagesse et la connaissance des valeurs éternelles sont pour l'âme. Sous le régime actuel de la Nouvelle Alliance, la sagesse de Dieu a été révélée en Jésus-Christ. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Grâce à Dieu, vous êtes unis au Christ qui est devenu, pour nous, cette sagesse qui vient de Dieu. Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. » 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30, 2, verset 7. Je continue le texte. Le père d'un juste est au comble de la joie. Celui qui a donné la vie à un fils sage est heureux. puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mis au monde. Proverbe 23, les versets 24 et 25. Comparez Proverbe 10, verset 1er. Cette maxime est le miroir du proverbe précédent. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Proverbe 23, verset 15. Je continue avec la 17e maxime. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde, et la femme adultère, un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets, elle amène bien des hommes à être infidèles. Proverbe 23, versets 26 et 28. Le maître nous ramène dans la première partie du livre des Proverbes où il a lourdement insisté sur les dangers que pose la femme séductrice. Proverbe 5, versets 26, versets 24 et 35, chapitre 7, versets 5 et 27. Dangers qui ont encore été rappelés dans le chapitre précédent au Proverbe 22, verset 14. Décidément, ce devrait être un aussi gros problème en Israël qu'il l'est aujourd'hui chez nous. On a fait des films sur Samson, un juge qui apparaît dans les Écritures. Trop sensuel. Les femmes l'ont perdu. Il tombe follement amoureux de Dalila, une Philistine à croquer, jolie comme un cœur. Mais elle le trahit dans Juges 13, verset 16, et Samson fait la cruelle expérience que décrit Salomon dans l'Ecclésiaste. Il dit « J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Je continue avec l'introduction de la 18e maxime. Pour qui les ah, pour qui les malheurs à moi, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les coups sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui restent jusque tard à boire du vin, pour ceux qui sont en quête de vin parfumé. Proverbe 23, les versets 29 et 30. Pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, l'ivrogne se pose 6 questions sur les problèmes d'ordre émotionnel, social et physique qui se posent à lui quand il est ivre. Ce début d'un petit poème de 17 vers en 7 versets est complètement en dehors du cadre habituel des maximes. C'est aussi la plus longue et la plus détaillée des descriptions des excès d'alcool du livre des Proverbes. Proverbe 23, les versets 20-21, 31, 4 et 5. Mais on trouve beaucoup de condamnations de cet abus. Par exemple, le prophète Ésaïe écrit « Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir, excités par le vin. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de boire et des champions pour vous gorger d'alcool. » Ésaïe, chapitre 5, les versets 11 et 22. Les Spartes de la Grèce en antique avaient coutume de mettre en scène un homme complètement ivre devant leur fils afin de leur montrer l'état dégradant et décadent dans lequel l'alcool réduit un homme. Il espérait ainsi les en dégoûter. Je continue ce poème. Ne couvre pas de tes regards le vin vermeil quand il brille de son éclat dans la coupe. Il descend si aisément, mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Proverbe 23, les versets 31 et 32. Ça me fait penser aux mises en garde du sage contre la femme séductrice. Je rappelle un passage. Les lèvres de la femme adultère distillent des paroles mielleuses et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la fin qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Proverbe 5, les versets 3 et 4. Le vin du Liban est d'une riche teinte dorée. Quelquefois, on en rehausse encore la couleur avec du safran. Dans le domaine de la boisson, comme avec le beau sexe, il faut se méfier de la convoitise des yeux et de la chair. avec sa couleur vermeille attrayante. Le vin fascine, surtout quand il étincelle à la lumière. On a plaisir à le regarder et à le déguster parce qu'il flatte les sens. Mais l'excès d'alcool engendre des conséquences fâcheuses et même la mort. Dans un proverbe précédent, on a lu que « Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. » Proverbe 20, verset 1er. Je continue ce poème. « Tes yeux verront alors des choses étranges, et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot en haut d'un mât. » Proverbe 23, les versets 33 et 34. L'abus d'alcool entraîne des problèmes mentaux et physiques. La personne ivre éprouve des hallucinations et titube en marchant, ce qui lui fait croire qu'elle navigue sur une mer déchaînée. Je finis par lire le chapitre 23. « On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, et je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. » Proverbe 23, verset 35. Pour le simple plaisir de mal faire, il n'est pas rare que des hooligans désœuvrés tabassent un pauvre ivrogne qui traîne dans la rue. Mais à cause de son état stupureux, il est insensible à la douleur et croit rêver ce qui lui arrive. Il n'a alors plus qu'une idée en tête, prendre un verre quand il se réveillera. À mon avis, on devrait faire mémoriser ce poème aux alcooliques qui participent à des programmes de désintoxication.